Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
N'est-il pas surprenant et heureux de voir les papes contemporains se faire les héros de la Déclaration des droits de l'homme de 1948 de l'ONU, tandis que d'autres papes, moins d'un siècle avant 1948, condamnaient les modernités issues de la Révolution française, comme Grégoire XVI dans son Syllabus de 1864. Le Vatican fête le 75e anniversaire de cette Déclaration des droits de l'homme de l'ONU en publiant un texte le 8 avril 2024 qui ne manque pas cependant de rappeler dans son paragraphe 3, donc au tout début, que, je cite, « aucune anthropologie n'égale celle de l'Église sur la personne humaine et sa dignité ». La déclaration pontificale de 2024 s'intitule « Dignitas infinita », une dignité infinie. Or justement, la déclaration de l'ONU de 1948 complète dans ce sens la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en France en ajoutant à l'article 1er « égalité en dignité ». Article 1er, qui devient donc « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit et en dignité ». Cet ajout consonne avec la doctrine sociale de l'Église et son originalité si riche quant à la dignité de l'être humain, alors que l'un des rédacteurs de 1948 et le français franc-maçon René Cassin. Cette anthropologie inégalée de l'Église enseigne, voir le paragraphe 15 du texte de 2024, que la dignité est intrinsèque à la personne et donc ne peut pas être perdue. Tous les êtres humains possède la même dignité intrinsèque, fin de citation. La dignité de la personne peut être bafouée, oui, mais elle ne peut pas disparaître. Elle est inaliénable. Une seule raison possible à cela. La dignité humaine est d'origine et d'essence divine. En effet, dire que la dignité de l'homme ne périt pas signifie qu'elle ne dépend pas de la santé, ni de l'âge, ni de l'intelligence, ni d'aucune qualité ou performance, qui sont toutes et tous des facteurs périssables, alors que précisément la dignité est impérissable. Cette dignité ne dépend pas non plus du jugement des uns ou des autres. Bref, dire que la dignité n'est pas relative, et donc que cette dignité est absolue, infinie, c'est dire que la dignité est surnaturelle, puisque tout dans la nature est au contraire relatif, dépendant d'autres choses, telles qu'un électron dépendant d'un noyau, un métier dépendant d'outils et d'utilité, une équation dépendante d'un système, un état d'âme dépendant d'un contexte, des événements, un événement dépendant de l'histoire, le sens d'un mot dépendant de tous les mots comme le montre un dictionnaire. C'est ainsi qu'un trisomique a la même dignité, c'est-à-dire la même valeur absolue qu'Albert Einstein. d'où provient cette origine et cette essence divine de la dignité de la personne humaine. À la suite de tout l'enseignement chrétien, Dignitas Infinita répond que l'homme porte la marque de Dieu, qu'il a été créé à l'image de Dieu, comme le dit la Bible dans son livre La Genèse, chapitre 1, versets 26-27. Et le Nouveau Testament va encore plus loin, en révélant la rédemption par le Christ. Le Christ, par sa passion et par sa résurrection, par son amour, a réhabilité l'homme dans sa dignité. C'est notre salut, salut des hommes, et le Christ est notre sauveur. Comment pourrions-nous parler de dignité absolue de l'homme alors que chacun de nous, depuis Adam et Ève, commet des actes indignes, indignes de l'amour. Ce serait erreur, erreur sans compter, erreur si on ne compte pas sur cette réhabilitation christique. Dès lors, même le plus salaud n'a pas perdu sa dignité inaliénable. De ce fait, l'assassin d'enfants a droit à un avocat et au garde-fou qu'est le code de procédure pénale. Sa dignité morale est perdue, mais il garde intacte sa dignité spirituelle, renouvelée par le Christ. Créé à l'image de Dieu et racheté par la rédemption christique, la dimension divine de l'homme humaine, la dimension divine de la personne humaine, est confirmée par l'incarnation du Christ dans l'histoire humaine et aussi dans l'histoire de chaque personne. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit saint Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20. Le Christ est incarné dans chaque être humain. Et l'homme, je cite ici Pascal, l'homme dépasse infiniment l'homme, oui, l'homme divinisé par l'incarnation du Christ dépasse infiniment l'homme aux actes moralement indignes. Heureusement, il s'agit du même homme, vous ou moi, ou chacun d'entre nous. Je ne mérite pas la dignité infinie. Elle m'est donnée par la présence du Christ en moi, par la présence de Jésus en moi. D'où l'erreur de ceux qui, certes de bonne foi, croient qu'on peut perdre sa dignité, par exemple en vieillissant, en perdant la raison ou en étant une personne profondément handicapée. Non, un vieillard grabataire a la même dignité qu'un jeune athlète, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Beaucoup confondent, mais on ne peut pas leur reprocher, confondent dignité absolue et fierté, ou encore amour-propre. C'est ainsi que des hommes et des femmes sincères demandent à mourir dans la dignité en revendiquant le droit à l'euthanasie ou au suicide assisté. Je respecte les fins de vie, parfois atrocement difficiles, et ne veux pas porter de jugement hâtif. Mais la vie humaine a la même valeur absolue depuis sa conception jusqu'à sa mort, tant et si bien que donner la mort délibérément bafoue toujours la dignité sacrée de la vie humaine. D'ailleurs, chaque fois que l'homme a relativisé la dignité de l'homme, l'humanité est entrée en barbarie. Robespierre, à juste titre surnommé l'incorruptible dans un contexte corrompu, voire Danton et Fabre d'Églantine. Robespierre serait considéré aujourd'hui comme coupable de crimes contre l'humanité en faisant exécuter de simples suspects de contre-révolution. Pour Robespierre, la dignité, la valeur d'un homme, était relative au succès de la révolution. Lui, Robespierre, le disciple de Rousseau, est devenu le principal acteur de la Grande Terreur. Hitler soumettra la dignité de l'homme au triomphe du Troisième Reich et Staline au triomphe du communisme. Ils échoueront, tous les deux tragiquement, en monstres criminels. Dans ces expériences de l'ignominie, n'y a-t-il pas la preuve par l'absurde de la véracité de la dignité sacrée de la personne humaine? Sans plonger sans cesse dans les horreurs de l'histoire, la vie quotidienne, contemporaine, nous met devant une alternative. Ou bien toute personne a une valeur absolue, sacrée, indépendante des contingences de la vie et des jugements des hommes, ou bien l'homme n'a qu'une valeur marchande. Une valeur marchande, la valeur momentanée et relative à son utilité, à ses compétences, à ses performances, à sa séduction. Or, personne ne souhaite n'avoir qu'une valeur marchande comme une chose. La foi dans l'homme est ainsi liée à la foi en Dieu. C'est cette dignité sacrée qui inspire l'enseignement social chrétien quand Mater et magistra de Jean XXIII, comme Vatican II, écrivent que, je cite, « le principe de base de cet enseignement est que les êtres humains sont et doivent être fondement, but et sujet de toutes les institutions où se manifeste la vie sociale. L'homme, dans sa dignité de nature divine, ne peut pas être un ustensile, un instrument ou un objet. L'homme est sujet et but, alpha et oméga de la vie sociale. Cela le libère des chefs providentiels, des logiques économiques, des idéologies politiques, des nationalismes, etc. C'est pourquoi Saint Jean-Paul II, dans son encyclique Christi Fideles Laici, de 1989, au paragraphe 37, proclame que, je cite, « découvrir et faire découvrir la dignité inviolable de toute personne humaine constitue une tâche essentielle et, en un certain sens, écoutez bien, la tâche centrale du service de l'Église. Faire découvrir la dignité inviolable, tâche centrale du service de l'Église. »
C'était « Petit philosophe dans le vaste monde », une émission de Bernard Ribal.